Allez, on démarre par la revue de presse comme tous les jours. Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
On parle des âmes ce matin dans la presse.
Avec le si beau titre d'un si bel article des dernières nouvelles d'Alsace, à nos âmes écorchées ou en quelques lignes, Pascal Coqui nous dit Strasbourg et tous les deuils du monde. En quelques heures, le silence a grignoté les bruits et éteint les voix. La veille encore, les rues bourdonnaient de cette rumeur propre aux foules qui s'agitent et qui houlent, et les voix voilà soudain muettes. Ce mercredi matin, les sons avaient disparu, les odeurs aussi, celles qui, en cette période de l'année, exhalent des effluves épicées et sucrées, des parfums de cannelle, de sucre, de praline et de vin chaud. À nos âmes écorchées, disent les DNA qui nous disent tout, un attentat est une profanation. Et un mot ce matin le résume dans la presse, Noël. Un Noël noir pour le Télégramme, un Noël sous tension pour la Provence, terreur sur Noël, le Républicain Lorrain, et nous sommes ici au-delà de la noirceur d'un homme que d'autres hommes recherchent, Shérif Chekat, ce voyou qui, dans une de ses cellules, dit le Parisien, affichait le portrait de Ben Laden. Les DNA, qui parlent si bien de l'âme, font leur une sur la traque, comme Midi Libre, comme La Voix du Nord, comme le Parisien, Sud-Ouest et Paris-Normandie parlent de la chasse à l'homme, le Figaro évoque le choc et la traque et mène le débat sur les fichiers S, mais tout ceci, à hauteur de police, semble pourtant vain en comparaison de la Noël souillée. Les DNA encore. Ces mini-sapins alignés sur la terrasse d'un café d'ordinaire clignotant, ils incarnaient une idée du partage, des fêtes familiales, de l'histoire de Noël, et les voilà inutiles, ravalés à leur triste condition d'objets en plastique. On lit dans La Croix, l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Ravel, qui parle aussi de Noël et de l'espérance lucide de cette fête et du besoin d'être ensemble et qui dit ceci. La joie du chrétien est toujours mêlée de douleur. Cette attaque vient nous confirmer la nécessité d'un sauveur. Il vient pour nous sauver de notre violence intérieure. Aussi la violence de nos sentiments en réaction, comme la peur ou la haine. Et Monseigneur Ravel dit aussi cela dans La Croix. L'attentat n'a pour moi aucune justification religieuse. Et cela fait écho à ce qu'on lit dans la presse alsacienne sur ce deuil que partagent les mosquées de Strasbourg. L'une d'elles, je le lis dans Libération, annonçait hier la mort d'un de ses fidèles, Kamal, qui est garagiste et vient d'Afghanistan.
Un autre évêque parle de Noël dans La Croix.
Il s'appelle Monseigneur Jacques Noyer, évêque émérite d'Amiens, un de ces prélats qui regarde les milieux populaires. Et vous allez voir, c'est une autre colère. Il avait écrit ceci avant les attentats. J'ai trouvé ce que l'Église de France devrait dire devant cette insurrection des fins de mois. Elle devrait annoncer qu'on ne fêtera pas Noël cette année. Et il faudrait ceci, disait Monseigneur Noyer, pour que l'on se souvienne du Jésus de la crèche, cet enfant démoni, et pour qu'on se rappelle qu'il y a des pauvres et qu'on dise aux nantis que les pauvres ont des droits. Le Père Noël est devenu beaucoup trop riche pour s'arrêter à l'étable où vient de naître l'enfant Dieu. Monseigneur Jacques Noyer, texte écrit avant les attentats, publié aujourd'hui dans La Croix, et son indignation se lit étrangement ce matin quand les gilets jaunes sont tombés des unes. Il faut être la Marseillaise, journal de gauche provençal, pour porter encore ce gilet en première page. Ailleurs, une ambiance a changé. Le Parisien monte deux pages contre les gilets jaunes. Des Français en ont assez, ils veulent que ça s'arrête. Et des commerçants à 7 réclament une trêve à Noël. Noël décidément. Les gilets jaunes subissent. Varmatin ou L'Opinion, c'est un exemple, décrivent le complotisme qui a traversé le mouvement après l'attentat de Strasbourg. La Provence s'en indigne dans son éditorial. C'est à vomir. Oui, mais dans le même temps, dans le même journal, on lit un reportage sur cette angoisse de gilets jaunes à Pertuis. Si on lâche maintenant, ils nous reprendront tout, vont-ils devoir repartir dans l'ombre? Il y a, dans nos journaux, l'idée qu'on passe à autre chose. Laurent Berger, patron de la CFDT, maintenant premier syndicat de France, parle de social-démocratie et de régulation dans Libération. Les Échos et L'Opinion racontent en détail comment le pouvoir sollicite les entreprises, car nous sommes, dit encore Libération, moqués en Europe. L'Opinion, ce n'est pas un hasard, sollicite la directrice des études de BlackRock, premier fonds d'investissement mondial qui dit ceci, si les gilets jaunes s'arrêtent, l'image du pays sera préservée. L'ont-ils compris, ces gens? On range les gilets jaunes dans nos livres d'histoire, c'est parfois bien vu. Dans Le Point, le philosophe allemand Sloterdijk regarde notre crise avec une gourmandise lettrée et nous dit qu'Emmanuel Macron ne sera pas Louis XVI. Dans Charlie Hebdo, Philippe Lançon cite Tocqueville, grand écrivain politique libéral, qui en mai 1848 avait vu des insurgés du peuple entrer dans l'Assemblée. Le regard était étonné et malveillant. Veillant plutôt qu'hostile, c'était une cohue et non une troupe. Le peuple semble toujours étranger au pouvoir et aux élites. Dans Télérama, Fabienne Pascaud, la patronne du journal, s'indigne du silence des artistes éclairés qu'aime le journal sur ce mouvement des gilets jaunes. Il est au moins un artiste éclairé qui parle du mouvement dans l'Obs, Stéphane Brisé, qui avait fait de Lindon un ouvrier en lutte dans son film En guerre, mais il est bien seul. Vous lirez dans La Vie et dans Télérama des reportages sur ces gens du peuple en gilets jaunes, qui, loin des manifestations, pacifiquement, doucement, gouvernement sont en train de marcher un petit groupe en direction de Paris pour remettre au président leur cahier de doléances. Ils espèrent aboutir à Noël. Noël, décidément.
On lit enfin dans Street Press une étrange histoire qui s'est déroulée au cœur des manifestations.
Street Press, qui est un excellent sur Internet, média des villes et des enquêtes, et qui raconte cette guerre que se menait au cœur des gilets jaunes, des groupes d'extrême droite et des militants antifascistes radicaux, les antifas voulant chasser les fachos des cortèges, les autres se vantant sur Internet de casser du gauchiste dans la rhétorique des hooligans du football dont ils viennent souvent. C'est passionnant et terrifiant ces jeux de groupuscules qui en disent pourtant tellement sur ces codes dont on parle peu. Le football inspire la violence, il nourrit aussi le talent de confrères. Ainsi, et j'en termine, Grégory Schneider qui dans Libération raconte et recense deux livres qui s'appellent La Manon Négret, les parrains du foot, sur l'envers de nos rêves, l'univers opaque et dangereux des intermédiaires du football, le foot, terrain du milieu, qu'est-ce que c'est beau, ainsi sont fabriqués nos rêves.
Et Grégory Schneider qui s'essaye donc à la critique littéraire, c'est dans Libé. Claude, merci.